C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, RG, 1907-1983. Belge, auteur de bande dessinée, politique, droite, hétérosexuel. Personnage, Bianca Castafiore. Œuvre, les albums, le sceptre d'autocar, les sept boules de cristal, l'affaire tournesol, coq en stock, les bijoux de la Castafiore, Tintin et les Picaros, et l'inachevé Tintin et l'Alpha. Adaptation au cinéma dans le film Tintin, le secret de la licorne de Steven Spielberg en 2011, le personnage de Bianca Castafiore est interprété par Kim Stengel. Paddock, Carbock, Colbach, Barbock, Kapok, Kodak, Mastok, Kozak, Amok, Karnak, Magok, Balzac, Outlook, Karnak. Voilà les diverses façons qu'a Bianca Castafiore de nommer le capitaine Haddock. Elle ne se rappelle pas son nom. Est-ce exprès pour l'humilier, comme faisait quelqu'un que je connaissais et qui déformait intentionnellement le nom d'une personne qu'elle haïssait? Je ne crois pas. Bianca Castafiore appelle aussi l'assureur Séraphin Lampion, Monsieur Lanterne et Monsieur Lampiste. Ce qui se passe, c'est que la cantatrice des aventures de Tintin est distraite. Enfin, ce qu'on appelle distrait, c'est une personne dont toute la vie est vouée à son art. Bianca Castafiore n'est pas distraite, elle est une artiste. Attention, cela ne veut pas dire narcissique. Les narcissiques n'ont jamais une distraction. Ils ne sont pas au service d'un art, mais au service d'eux-mêmes. Ce qui ne se trouve pas dans les œuvres d'art n'est parfois pas moins intéressant que ce qu'elles contiennent, même si c'est moins crucial. Eh bien, parmi tous les noms de deux syllabes finissant par CK, il y en a un que Bianca Castafiore ne prononce jamais pour désigner Haddock, c'est Hitchcock. Je ne sais pas si Hergé y a pensé ou l'a fait exprès, en tout cas je m'empresse de dire que, moi qui n'ai pas une passion pour l'humour persifleur de Hitchcock, il a bien fait, car Les bijoux de la Castafiore, le principal album où on la retrouve, n'a rien des ricanements de Hitchcock. C'est un album plein de fantaisie, le plus poétique peut-être d'Hergé. Ce qu'on ne relève jamais à son sujet, me semble-t-il, c'est qu'avec lui, Hergé a changé l'éclairage sur les chanteuses d'opéra. Jusque-là, il était dramatique, fatal, respectueux. Et je ne vois pas du tout de ressemblance entre Castafiore et Maria Callas, comme on l'a souvent dit, cette Callas si triste qu'à la fin de sa vie, elle disait « Voilà toujours un jour de moins à vivre ». On aimait les malheurs de la diva. Avec Bianca Castafiore, Hergé a révélé, avant qu'elle n'apparaisse une personne, une authentique chanteuse qui n'exerçait pas encore la grâce enjouée et géniale Montserrat Caballé. Qui est Bianca Castafiore? Pour en parler, je reçois Benoît Peters, scénariste et écrivain, professeur invité à l'Université de Lancaster, auteur de plusieurs livres sur Hergé, dont « Lire Tintin, les bijoux ravis » aux impressions nouvelles. Benoît Peters, à quoi ressemble cette Bianca Castafiore qui a deux tenues, une tenue d'opéra et une tenue de ville?
La Castafiore est imposante. Hergé employait parfois cette expression venue de son enfance, c'est une belle personne. Une belle personne est une personne plutôt en chair. Une de ces dames, de ces tantes, de ces visiteuses chez lesquelles il allait parfois étant enfant et qui l'impressionnait, vous savez, la grande tante, enfin ce genre de personne. Alors, ce qui est très ambigu, c'est qu'on ne peut dire de la Castafiore ni qu'elle est belle, ni qu'elle est laide. Il y a des moments, et je dirais qu'au début, dans les premières apparitions, son nez pointu et ample donnerait plutôt l'impression qu'elle n'est pas vraiment gâtée par la nature. Et puis, au fil du temps, son élégance, sa jovialité, sa bonne humeur en toutes circonstances, sauf quand la presse fait allusion à son poids, en font une femme séduisante à sa façon. Pour les uns, ce caractère imposant de la diva en jette, et pour d'autres, il fait peur, il paraît un peu étouffant ou écrasant.
On la suppose italienne, quoique ça ne soit pas expressivement dit, mais elle dit à deux reprises « Madonna », c'est tout ce qui nous laisse penser qu'elle l'est. Ma question est surtout, chante-t-elle bien? On n'en est pas sûr, parce que la première fois que Tintin l'entend dans une voiture, il pense heureusement que les vitres sont solides, et quand elle annonce une fois l'air des bijoux, dans les bijoux de la Castafiore, Haddock s'exclame « Aux abris !»
Alors, c'est très ambigu. D'une part, c'est une diva. Elle se produit dans les plus grands opéras du monde.
Pardon de vous couper, sauf que au début, on la voit dans un cabaret où elle chante et elle n'a pas l'air là.
Alors,
dans
la
une
première
position.
La première fois qu'on la voit, elle est convoquée à la cour de Sildavi. Elle donne un concert privé pour le roi Muscardus, qui laisse quand même penser que c'est une vedette. On la verra sur le yacht du milliardaire Rastapopoulos. Là, on se rapproche un petit peu plus de Callas. Elle est quand même de la Scala de Milan. Ce n'est pas rien. Et donc, elle a de nombreux disques, des admirateurs, des prétendants. Mais pour les personnages des aventures de Tintin, tous, sauf Tournesol, qui est sourd, sa voix paraît plutôt effrayante. On sent qu'il y a chez elle de l'ampleur. Et peut-être n'a-t-on pas envie de se retrouver à l'arrière d'une voiture, même avec une grande cantatrice d'opéra. Ou bien alors, tous les personnages des aventures de Tintin, Milou compris, sont insensibles à la musique, ont l'oreille cassée.
Ou alors, est-ce que ça ne participe pas de la moquerie habituelle de la bande dessinée des arts rares? Je pense à Assurance Tourix, le poète dans Astérix, et étant poète, il est nécessairement raillé. Est-ce que ça ne participe pas de ça?
Alors, c'est curieux parce que j'aurais tendance, si vous me posez la question, comme lecteur, j'aurais tendance à dire qu'Assurance Tourix chante faux et que la Castafiore chante juste. Quand on écoute L'ère des bijoux, il y en a de nombreuses, il y a de nombreuses grandes cantatrices qui ont interprété cet air. C'est un air très beau et je suis toujours agacé quand, dans les dessins animés par exemple, on la fait chanter comme une casserole. Non, ce n'est pas ça, c'est un air qui est subtil, qui est tout à fait remarquable. Il ne faut pas imaginer la Castafiore trop cartoon, parce que ça rendrait la chose un peu grotesque. Et puis, contrairement à ce qu'on dit parfois, elle ne chante pas que l'air des bijoux, même si on pourra revenir sur l'air des bijoux, qui est un morceau très très intéressant, qui raconte beaucoup de choses. Mais elle a triomphé, par exemple, dans la Gazaladra, elle a chanté de très nombreux opéras. Il se trouve que son tube à elle, c'est l'air des bijoux, et que c'est un gag récurrent, comme Hergé les aime.
Quelles seraient, d'après vous, les sources esthétiques, pas réelles, de Bianca Castafiore? Est-ce que ça serait Betty Boop? Est-ce que ça serait les personnages que jouait Mae West au cinéma? Est-ce que ça serait les grosses femmes de Dubout? Est-ce que qui seraient ses ancêtres esthétiques, d'après vous?
Alors un peu tout ça, il est certain que Hergé, qui a grandi dans un milieu très modeste, n'est jamais allé à l'opéra étant enfant, ni même adolescent, ni probablement jeune homme, ce n'était pas du tout son monde. Sa musique, à lui, c'était la chanson, et c'était le jazz. Hergé était un jeune homme moderne qui aimait le jazz et qui devait trouver probablement l'opéra un peu bourgeois, un peu compassé, un peu à l'ancienne, au fond, n'appartenant pas à son public, et puis n'oublions pas qu'il s'adresse à tout le monde, à de jeunes lecteurs qui eux aussi doivent trouver la grande musique un peu ridicule. Donc là, il y a quelque chose qui serait peut-être l'héritage du cinéma burlesque, même si le cinéma burlesque, on ne voulait pas entendre les chanteurs ou les chanteuses, mais on voit bien que c'est un univers qu'on aurait un peu ridiculisé, le monde des grands, le monde des gens sérieux, de ceux qui s'y croient, des gens riches aussi, tout ce côté, tout cet esprit un peu canaille est très présent chez Hergé, dont on dit parfois qu'il est conformiste, mais quand on pense à l'audace de ce qu'il fait par rapport au milieu dans lequel il est, et à l'environnement de catholique, d'extrême droite, etc., c'est plutôt l'impertinence qui frappe chez le jeune Hergé. Ce qui est intéressant chez lui, et ça c'est commun à Tournesol, à Haddock, même à Lampion, c'est qu'il va faire évoluer le personnage. Et donc la Castafiore, un peu caricaturale du sceptre d'Ottokar, celle que Tintin veut fuir, va se révéler, notamment dans ses relations avec Tintin, Haddock et les autres, un personnage compliqué, serviable, un peu envahissant, mais parfois étant une véritable alliée. Elle les sauve littéralement, et elle les sauve de manière très astucieuse et très, très ingénieuse dans l'affaire Tournesol, quand ils sont venus lui rendre visite au milieu d'une représentation d'opéra.
Alors, il y a une chose qui est assez courante chez les personnages de Tintin, c'est qu'elle n'a pas de famille, mais peut-être qu'elle, elle n'a pas de famille aussi pour accentuer le côté grand artiste qui ne vit que par son art. Elle a, comme on sait, simplement du personnel, une camériste et un accompagnateur qui ont assez peu d'importance dans les histoires. On a évoqué à son sujet une supposée misogynie d'Hergé, que moi je ne vois pas du tout, parce qu'à ce moment-là, il faudrait l'accuser de misandrie quand il décrit des personnages grotesques. Et il me semble que Par exemple, il y a beaucoup plus de misogynie dans un film qui me paraîtrait s'inspirer de Hergé, qui est Les Aventuriers de l'Arche Perdue de Spielberg, où les femmes, quand elles sont femmes, se crachent par terre, se battent comme des hommes et ne sont valorisées qu'en tant qu'elles ressemblent aux hommes. Ça, c'est de la misogynie. Mais est-ce que vous voyez de la misogynie dans le personnage de la Castafiore?
Si misogynie il y a dans les aventures de Tintin, c'est par la rareté des personnages féminins. Mais cette rareté s'explique très facilement. Il faut imaginer que Hergé, qui crée Tintin en 1929, qui le développe dans Le Petit XXe, le supplément du quotidien ultra-catholique, ultra-conservateur, le XXe siècle, s'adresse d'abord aux garçons. Et après la guerre, quand les hebdomadaires Spirou et Tintin apparaissent, ce sont des hebdomadaires, dans l'un et l'autre cas, très liés au milieu du scoutisme, au milieu des collèges religieux, etc. La représentation d'une femme jeune, un tant soit peu séduisante, même s'il n'y avait rien d'érotique, même minimalement, suffit à mettre en émoi. Il y a de nombreuses anecdotes qui montrent que jusqu'au début des années 60, ça génère des menaces de désabonnement, des protestations, des lettres nombreuses. Il suffit d'avoir une jeune fille pour qu'on ait l'impression d'avoir induit tous les petits lecteurs en tentation. Et donc, Hergé ne se permet pas ce genre de personnage, sauf pour des silhouettes très, très, très épisodiques. Il disait aussi qu'il ne voyait pas, c'est peut-être une de ses limites, qu'il ne voyait pas comment caricaturer une jolie femme.
Vous le disiez, Benoît Peters, peu à peu, Bianca Castafiore prend une existence autonome.
On ose dire qu'elle prend de l'épaisseur, parce qu'elle en avait déjà.
Elle prend une existence autonome jusqu'à avoir son album, Les Bijoux de la Castafiore. C'est une histoire pleine d'oiseaux, à commencer par elle que les journalistes surnomment le rossignol milanais. Il y a un perroquet, une chouette, une pie, et tout se passe à Moulinsart comme dans une cage.
Et en même temps, l'aventure est là, mais l'aventure est là sous cette forme de l'intrusion de la Castafiore, le débarquement de la Castafiore et de ses deux acolytes, parce que malgré tout, il ne faut pas les expédier trop vite. Igor Wagner, l'accompagnateur, alors quel nom, Igor Wagner déjà. Et puis, il est terrorisé, lui, le pauvre, qui fait des paris aux courses. Mais Michel Serres, dans un article mémorable, avait bien montré que quand il envoyait son pari Sarah, Oriane, Semiramis, il fallait lire SOS. Et que le pauvre homme est complètement emprisonné. Quant à la pauvre Irma, la camériste, elle est accusée à chaque instant d'avoir égaré les bijoux de la Castafiore, de ne pas retrouver ceci, cela. Bon, donc c'est cette petite tribu qui va entrer avec les gammes, et donc c'est le son qui envahit une bande dessinée, c'est magnifique déjà, et puis surtout, c'est la réaction de ces trois célibataires qui avaient un mode de vie extrêmement feutré, avec chacun son territoire, et qui sont confrontés à une féminité envahissante. Et c'est ça l'histoire secrète, c'est pas le vol des bijoux, l'histoire secrète c'est qu'est-ce qui se passe dans ce petit monde où les rapports sont extrêmement polissés, où chacun a son territoire, quand quelqu'un, par le son, par sa présence, par la presse qu'elle amène derrière elle, tout en faisant semblant de ne pas en vouloir, envahit l'espace du château.
Nous allons maintenant entendre une riche américaine persuadée d'être une cantatrice de génie et qui chantait comme un chat qu'on écrase. Mrs. Miller a enregistré plusieurs disques et a même chanté pour les soldats américains au Vietnam, les pauvres. J'ai parlé dans Le Secret professionnel de la Diva en 2012 de cette Mrs. Miller et la voici donc qui chante A Lover's Concerto. C'était en 1966, en plein apogée de la carrière de Bianca Castafiore.
Gentle is the rain that falls softly on the meadow. Birds high up in the trees selling flowers with a melody. Oh, 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 see there beyond the hill the bright colors of the rainbow. Some magic from above made this day for us just to fall in love. To you from this day until forever. Just love me tenderly, and I'll give to you every part of me. Oh, 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 don't ever make
Benoît Peters, Bianca Castafiore est célèbre. Elle apparaît à la couverture des magazines et elle sait très bien manipuler les médias. C'est une chose très intéressante, en particulier à Moulinsart, dans Les Bijoux de la Castafiore. Elle dit qu'elle va refuser les interviews et elle s'empresse d'en accepter.
Hergé lui-même avait un rapport très ambigu à la presse. En 1958, au moment de l'exposition universelle de Bruxelles, Paris Match lui a consacré un reportage. En fait, il ne savait pas trop quoi raconter, je crois, sur ce qui se passait à Bruxelles. On s'est dit, on va aller voir Hergé. Et donc, on l'a photographié sur le toit de l'immeuble Tintin, une clope au bec, et avec un titre qui était « Le Belge qui fait peur à Walt Disney »,« L'homme aux 300 millions d'albums », on devait en être à 25 millions à l'époque, enfin bon, et plein d'extravagances. Ça a inspiré à Hergé très très directement l'épisode de Paris Flash, Paris Flash qui fait un reportage et qui annonce de manière tout à fait extravagante ou en tout cas prématurée le mariage prochain en interprétant de manière fausse une scène que nous avons vue avant. C'est très 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 jubilatoire le mariage avec Adoc, les fiançailles et puis le mariage. De même la scène de la télévision, elle est tout à fait caractéristique du moment où les médias ont commencé à s'intéresser à Hergé. Débarquait chez lui comme les équipes de télévision pouvaient le faire à l'époque, c'est-à-dire que c'était 8-10 personnes, l'appartement ou la maison complètement sans dessus-dessous, et des journées entières de travail perdues. Donc Hergé parodie cela, et au fond, la Castafiore, c'est un peu ce qu'Hergé ne veut pas devenir, c'est-à-dire l'homme qui serait perpétuellement en représentation, qui devrait être à la hauteur. Lui, il aimait faire ses Tintins, faire rire, voir ses amis. Et les interviews étaient un peu une corvée. Il faut dire que les questions qu'on lui posait n'étaient pas toujours très bonnes. Donc là, il y a une mise à distance, mais je dirais qu'il y a aussi de l'humour. Et j'ai retrouvé des photographies tout à fait caractéristiques qui montrent bien qu'Hergé se servait de ses émissions sur lui pour se nourrir et en même temps pour s'en moquer. La Castafiore, elle, évidemment, goûte la chose. Alors, c'est une des scènes parodiques. On peut dire que l'ensemble de l'album est une parodie des médias et une parodie brillante et prémonitoire parce que la société du spectacle, l'omniprésence médiatique, le besoin de paraître pour exister n'était pas en 1961-62 au moment où Hergé décide l'album, n'en était pas du tout à ce point-là. Et la gloire d'Hergé n'en était qu'à ses débuts. Mais déjà, il arrive à en produire une satire magnifique, de même qu'il va produire une satire formidable dans l'autre scène de télévision. Celle où Tournesol a inventé le supercolore Trifonard et où on va revoir en abîme toute l'aventure, mais complètement déformée, tout est extravagant, le vol des bijoux, les bohémiens, les Dupont.
En même temps, c'est prémonitoire et ça ne l'est pas tout à fait, car je mettrai sur le site de l'émission le lien d'une émission de télévision avec Maria Callas à la télévision française en 1969 et qui était interviewée exactement comme on peut supposer que Bianca Castafiore l'a été, même s'il y a une équipe envahissante. C'est très très frappant. On appelle Maria Callas madame, on la laisse parler très longuement, elle fait des réponses interminables, choses qui sont devenues impossibles maintenant. Bianca Castafiore à la télé, on lui demanderait est-ce que Sucé s'est trompé.
Oui, c'est certain, Hergé n'a pas imaginé le pire, mais en tout cas, il a imaginé ce rapport de chat et de souris avec les médias, et qu'au début, c'est surtout pas de journaliste, rendez-moi service, etc. Adoc en est très sûr. Il y a quelque chose d'ailleurs d'amusant à ce propos, c'est que les vraies vedettes devraient être Tintin, Adoc et Tournesol, qui sont allés sur la Lune tout de même, ce qui est quand même plus frappant que d'avoir chanté l'air des bijoux. Or, pour les journalistes, ça n'existe pas. Et ça, c'est très caractéristique d'Hergé, c'est accomplir des exploits, mais ne jamais s'en vanter. Et probablement que ce côté un peu trop présent, trop quand même content de soi, de la Castafiore, est aux antipodes d'Hergé, et d'ailleurs aux antipodes de tout ce milieu de la bande dessinée belge, tous ces gens, les Franquin, les Maurice, etc., les Peyot, ils ont été un peu débordés par leur succès à un moment, et n'aimaient pas tellement se montrer.
Je dois dire qu'une invention très savoureuse de l'article de Paris Flash que dessine Hergé dans les bijoux de la Castafiore nous venge, nous qui écrivons dans les journaux, des secrétaires de rédaction qui ajoutent des fautes, car il y est écrit Adoc avec un seul D et son château est appelé Moulinserre.
Ce qui était presque une préscience de l'intérêt que Michel Serre, des années après, portrait à l'œuvre d'Hergé. Il y a des choses magnifiques. Tout cet article est très savoureux parce que c'est de la parodie fine. Et je trouve que dans le rapport à la Castafiore, justement, ce rapport aux médias, d'y aller, sans y aller, mais le rapport avec Adoc, le rapport qu'Adoc a avec elle, ce sont des choses très subtiles. Prenons un cas qui m'a beaucoup amusé quand je l'ai découvert, enfin quand j'y ai prêté attention. À un moment, dans le parc, pendant la promenade dans la roseraie, la Castafiore, qui parle aux médias, donc qui se fait très, très gentil, dit « Et puis cet éternel pullover, ce n'est pas une tenue pour un homme de votre âge. » Et donc, Haddock, manifestement assez fâché, enfin bon, il a son pullover de gentleman farmer et de barin. Mais on remarque qu'à partir de cette scène, il change de chemise, de pantalon, de veste et de cravate dans toutes les scènes. Et donc, chaque fois qu'il y a un changement de temps, il a une nouvelle tenue. La Castafiore s'en va et il reprend son éternel pullover avec l'encre de Marie. Eh bien, voilà le genre de finesse qu'Hergé ne souligne pas.
Nous l'avons dit, les bijoux de la Castafiore n'a pas à proprement parler d'aventure. C'est une série de quiproquos à propos des bijoux, vous volez ou non, comme dans une pièce de Feydeau, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est un album qui est un délice d'artifice, et c'est probablement le seul d'Hergé qui soit de cet ordre-là. C'est un album de 1963, hein, et ce qu'il y a de frappant, c'est que les années 60, c'est le rétrécissement de l'Europe. Tintin avait commencé ses aventures dans la Belgique coloniale, et il n'y a pas plus de Congo que la France n'a d'Algérie, donc c'est peut-être aussi symboliquement l'album du rétrécissement de l'Europe.
Tout à fait, et l'album du « Il faut cultiver son jardin », Moulinsart est en Europe occidentale, comme nous le montre une lettre que Chang a adressée, donc château de Moulinsart, Europe occidentale, c'est déjà Bruxelles, capitale de l'Europe, mais c'est aussi une campagne qui est menacée par l'invasion. Et puis alors, il y a des choses étranges. L'histoire des Romanichel, qui est au cœur de l'album, elle est très jolie. Elle est très jolie, pourquoi ? Parce qu'elle est là aussi très nuancée. Haddock commence par dire « voilà la vulgate vulgaire, mais enfin il y a des gens pour vivre au bord de ce champ d'ordures, comment est-ce possible ? Le rapport avec la petite Mirka, la petite bohémienne est difficile, il se fait mordre, petite diablesse. » Et puis, quand il voit ces gens dans leur situation, il les accueille à Moulinsart. On le met en garde de tous côtés, Nestor, les Dupont, les responsables du village de Moulinsart. On les soupçonne immédiatement quand il se passe quelque chose. Et finalement, on ridiculise les Dupont, qui sont ceux qui sont toujours prêts à accuser le premier venu, à se tromper, à ne pas mener de véritable enquête, et qui ont cette phrase admirable que beaucoup de ministres de l'Intérieur et de préfets feraient bien de méditer. C'est bien notre chance. Pour une fois que nous trouvons des coupables, il faut qu'ils se révèlent innocents. Et je trouve ça magnifique parce que c'est pas non plus. Et Tintin essaye de s'approcher des Romanichel et n'arrive pas vraiment à établir le contact.
Il juge leur musique déchirante.
Il est plus sensible à la musique tzigane qu'à la musique de la Castafiore, c'est certain. Mais voilà un portrait tout en nuance. C'est-à-dire, c'est pas l'humanisme bêlan qui nous dirait ah, soyons tous ensemble, ils sont dans le château, on va aller dîner. Non, c'est pas ça.
Non,
mais c'est aussi le dépassement des préjugés. Les préjugés des deux côtés, les accusations rapides. Voilà des choses où je trouve que parfois, quand on considère Hergé, parfois à juste titre, comme un réactionnaire, quand on lui reproche Tintin Congo ou son attitude sous l'occupation, on ne prête pas assez attention à ce genre de choses, c'est-à-dire un discours non conformé. Il a été sensibilisé, je crois, par un abbé qu'il connaissait à la situation des tziganes. Il en a rencontré, il s'est documenté, et de même que les peaux rouges dans les réserves, c'est un sujet qui l'a touché. Je trouve qu'il y a cette subtilité dont on ne fait pas toujours crédit à Hergé, et dans un univers de caricature, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un univers de caricature où tout le monde est caricaturé, il réussit à introduire de la finesse et finalement de la bienveillance. C'est un univers globalement bienveillant, hormis quelques méchants comme le lieutenant Alan ou Rastapopoulos, mais finalement, les gens même l'Empuron, qui est envahissant, qui est pénible, qui est un casse-pied beaucoup plus rude que la Castafiore, même l'Empuron, par moments, a des côtés qui peuvent être sympathiques. Et puis, se moquer de l'Empuron, c'était se moquer, au fond, des familles d'électeurs du journal Tintin, donc c'était assez audacieux aussi. C'était peut-être permettre aux enfants de prendre un peu de distance par rapport aux figures d'autorité et de conformisme qui les entouraient.
Est-ce que, en dehors du fait que c'est un album en cage, dans le meilleur sens du terme, si je puis dire, les bijoux de la Castafiore, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de singulier qui est très symbolisé par la marche cassée de l'escalier de Moulinsart, qui n'arrête pas d'être recollé, où tout le monde tombe et se casse la figure? Et c'est un album où tout tombe en permanence, tout est dans un sens-dessus-dessous permanent, et il n'y a pas vraiment d'ordre ni de remise en ordre à la fin. Les albums de Tintin sont assez des choses d'ordre, et là, c'est une espèce de...
Alors, dans le livre « Lire Tintin, les bijoux ravis », je faisais une lecture assez marquée par la psychanalyse. Et on peut dire que c'est
La psychopathologie de la vie quotidienne de Freud déclinée sur un mode amusant, c'est-à-dire que toutes les formes d'actes manqués, écorcher les noms, tomber, se tromper de situation, ne pas être là où il faut, etc., se prendre les pieds dans les fils, chuter invraisemblablement, tout le monde chute, sauf la Castafiore, mais tout le monde tombe, tout dysfonctionne, et ça c'est extrêmement amusant. Et en même temps, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'au fond, cet album, c'est littéralement et littérairement une relecture par Hergé de sa propre œuvre. Parce que quand il lance ce nom, Bianca Castafiore, c'est un nom, un point, c'est tout, une espèce de jeu de mots que le lecteur repère ou pas. Mais tout d'un coup, il se dit, mais Blanche, chaste, fleur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va faire, par exemple, la rose blanche de Tournesol. C'est presque du Raymond Roussel, ça. Mais il se dit aussi, l'air des bijoux, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle chante l'air des bijoux, si elle avait vraiment des bijoux, et si ces bijoux disparaissaient. Ou bien, elle chante un air d'opéra. La Gazzaladra. Et Tintin, qui est quand même cultivé, qui reconnaît immédiatement la chose, qui connaît les langues, hein, il a un peu le don des langues, et qui dit la Gazzaladra, c'est-à-dire la pivoleuse, pour moi ça a été la lumière, et hop, il monte en haut. Tout ça, c'est une manière pour Hergé de tirer parti.
Pour ceux qui sont, donc il monte dans le nid de la pie et
il trouve voilà. Et voilà les Romanichelles innocentés. Mais ce qui est très brillant, c'est qu'en fait, c'est des éléments qu'il a placés dans sa jeunesse sans y penser. Et puis on se rend compte aussi, en lisant bien les paroles, parfois non chantées, de l'air des bijoux. Si on prend l'air des bijoux dans sa longueur, hein, donc « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir, est-ce toi Marguerite, est-ce toi ? Non, ce n'est plus toi, c'est la fille d'un roi qu'on salue au passage. » Eh bien, pratiquement tous ces éléments sont activés. Et le jeu avec les miroirs, par exemple, est absolument constant. Et ça, c'est quand même quelque chose assez fort, c'est-à-dire que dans une série destinée aux enfants, quelqu'un se dit « je vais récupérer les éléments », de même qu'on a un tournesol qui va être prisonnier du soleil avant de partir sur la lune, mais qui par son nom est appelé aussi aux fleurs, et donc qui quitte la physique nucléaire pour s'occuper de son jardin. Tout ça, c'est une manière pour Hergé, au fond, de tirer parti de ce qu'il a mis en place. De même, musicalement, à un moment, elle dit « la Castafiore, le capitaine Arrok », et il répond « a rock and roll hein, ».« And roll ». Et donc, c'est une façon peut-être, à côté du chant des Tziganes, d'amener une autre musique qu'Hergé découvre à cette époque, parce que c'est quand même resté un moderniste sur ce plan-là, qui est le rock and roll, qui est probablement pas tout à fait l'univers d'Irma, d'Igor Wagner et de la Castafiore. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup chez Hergé toutes ces petites choses, toutes ces couches qui n'empêchent pas un premier degré d'aventure, mais qui culmine dans une scène extraordinaire et qu'on peut commenter longuement puisque Freud n'est plus là pour le faire, qui est le rêve que fait Haddock, cette diva transformée en perroquet, comme le perroquet qu'elle lui a offert, et lui, nu, dans la salle, on ne voit pas entièrement nu, mais on peut vraiment le supposer, nu dans la salle, entouré de perroquets en smoking, hautement désapprobateur. C'est une image que j'ai longuement commentée, mais qui est quand même une image d'une audace un peu folle, parce qu'elle est, c'est pas le rêve saugrenu, c'est un rêve construit.
Benoît Peters, ce que vous a appris le personnage de Bianca Castafiore?
Eh bien, peut-être que il faut se méfier de la première impression et qu'on peut trouver une vraie amie derrière ce personnage d'allure encombrant et envahissant, qu'elle sait se montrer astucieuse, finaude et finalement pleine d'humour. Donc voilà, petite leçon de vie, juger, ne pas s'empresser de juger à l'apparence.
Comme si j'étais assis.
C'était Personnage en personne par Charles Danzy.
Là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti. Dans un instant, Mathias Sénard et la salle des machines. Vie,
le paradis acquis. C'était un grand jeudi.